Gaudete in Dominos, Semper iterum dico gaudete. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soyez joyeux dans le Seigneur, toujours, je le répète, soyez joyeux. Mes frères, singulière exhortation que nous fait la Sainte Église, reprenant les paroles de Saint Paul en ce troisième dimanche de l'Avent. Réjouissez-vous. C'est un encouragement et même un ordre qui nous est donné. Nous recevrons d'ailleurs un commandement similaire pendant le carême, cette autre période de pénitence liturgique. Laetare Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem. Le verbe latin est différent, mais le sens est le même. Cela signifie réjouissez-vous, vous les fidèles de Dieu, qui ne faites avec son divin Fils qu'un seul corps, une seule cité sainte, la Jérusalem céleste. L'Église veut donc qu'en ces temps liturgiques, où nous devons nous livrer aux œuvres de pénitence, nous ne perdions pas la joie et ne nous laissions pas aller à la tristesse comme font les hypocrites que notre Seigneur reprend par ses paroles. Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas tristes comme les hypocrites qui exténuent leur visage afin que leur jeûne paraisse au regard des hommes. Et puis, alors que nous sommes en train de vivre la grande apostasie des nations, que nous assistons impuissants à la ruine de la civilisation chrétienne et que tant d'âmes se perdent, cette exhortation à la joie a toute son importance. Mais avant toute chose, avant de pouvoir obéir à cette exhortation qui nous est faite, il nous faut savoir exactement ce qui nous est demandé. Qu'est-ce que cette joie à laquelle on nous demande de nous livrer? Et de façon plus fondamentale, qu'est-ce que la joie? En tant qu'elle est une passion naturelle, nous ressentons la joie lorsque nous sommes mis en présence d'un bien aimé, que nous avons désiré. De la même façon, la tristesse est causée par l'absence de ce bien que nous désirons. Ainsi, selon nos différentes facultés, nous pouvons donc goûter différentes joies. Des joies sensibles par nos sens, on parle alors de plaisir, des joies de l'intelligence par notre esprit, des joies du cœur par la volonté. Cette joie naturelle que nous pouvons ressentir n'est en soi ni bonne ni mauvaise. C'est l'objet sur lequel elle se porte, qui lui donne sa moralité. Si cet objet est bon, elle sera bonne. Si l'objet est mauvais, elle sera mauvaise. Notons cependant tout de suite qu'il faut bien se garder de la joie mauvaise, du plaisir que l'on peut ressentir lorsque nous voyons le mal, ou pire, lorsque nous l'avons commis. Cette mauvaise joie plonge celui qui s'y livre dans une espèce d'ivresse qui fait perdre l'usage de la raison et enfonce davantage dans le mal. Philippe le Bel, roi de France, fut châtié spécialement par Dieu pour la joie qu'il ressentit à la mort de Boniface VIII, pape qui lui avait résisté et qui l'avait persécuté. À l'opposé, il y a une joie naturelle et innocente qui apporte un vrai soulagement aux misères de cette vie et quelquefois même vient au secours de la vertu abattue. Il faut savoir goûter les joies simples de la vie et remercier Dieu qui en est l'auteur. Attention cependant dans ces choses de la nature, même bonnes, à se livrer sans retenue à une joie effrénée. C'est un excès que Dieu condamne. Et quand la Sainte Écriture dit de la joie qu'elle est une folie, c'est de cet excès dont elle parle. Une joie modérée, grave et retenue est au contraire une des plus grandes faveurs dont Dieu récompense la vertu dès ici-bas. Attention également à faire consister cette joie naturelle dans l'usage immodéré des biens périssables. Dieu veut que nous soyons sobres en tout, et ce n'est que cette sobriété de jouissance qui nous fera trouver un véritable plaisir dans ces biens. L'usage excessif enflamme les passions, et les passions sont insatiables. Elles désirent toujours être exaucées. La paix de l'âme et la joie du cœur ne sont le partage que de ceux qui ont dompté et maîtrisé leurs passions. Il existe cependant une autre joie, bien supérieure à cette joie qui vient de la nature. Cette autre joie qui est surnaturelle nous vient, elle, de la charité. Comme il a été dit pour les passions, la joie procède de l'amour. Et ici, il s'agit d'un amour surnaturel, donc de la charité. La charité, en effet, nous fait aimer Dieu connu par la foi. Or, du seul fait qu'il est aimé, nous dit saint Thomas, Dieu est dans celui qui l'aime. Celui qui demeure dans la charité, est-il écrit en saint Jean, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est pourquoi la joie spirituelle qui vient de Dieu est causée par la charité. Pas de joie spirituelle sans la charité, sans l'amour de Dieu. Cette joie, par opposition à la joie naturelle et humaine, est toute céleste et divine. La joie humaine est sujette à des alternatives continuelles. Elle suit les biens qui la font naître et qui l'entretiennent. Mais la joie céleste est solide et permanente, comme la vertu d'où elle naît. La première joie peut être troublée par nos ennemis, mais personne ne peut nous ôter la seconde, si ce n'est nous-mêmes. Les anciens philosophes disaient déjà que personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous rendre malheureux. Ceci est encore plus vrai pour une âme en état de grâce. Une âme bien chrétienne et bien raisonnable ne se trouble jamais pour les accidents de la vie, dans lesquels elle reconnaît la conduite de la divine providence, toujours adorable et toujours aimable, puisqu'elle n'a d'autre but que notre plus grand bien. Cette joie surnaturelle est déjà un avant-goût du ciel. Elle est déjà une participation à la joie des saints, des bienheureux du ciel. Celui donc qui vit en dehors de la grâce de Dieu, qui n'est point dans sa charité, sera privé de la véritable joie. Qu'il ait gardé la foi, ou ne serait-ce qu'assez de religion, pour savoir que ce qu'il fait lui méritera un châtiment éternel dans le feu de l'enfer, et ce sont les remords qui l'empêcheront, lorsqu'il sera seul face à lui-même, de goûter une vraie joie et qui troubleront ses moindres plaisirs. Et s'il n'a point de religion, ou en a étouffé les cris, son état est plus à plaindre qu'à envier. D'ailleurs, la joie qui pourrait l'animer n'existe que dans son imagination et dans ses sens, non dans le fond d'un cœur tranquille. Cette joie pleine d'agitation n'est rien moins que la véritable joie. Et la justice de Dieu, qui poursuit le pécheur, ne lui permet pas de goûter le moindre repos, au milieu même de ses plaisirs les plus sensibles. Il rit et se réjouit au dehors, tandis que le chagrin et l'effroi le troublent au dedans. C'est la joie de Balthazar, qui chante au milieu d'un festin, tandis que Dieu imprime devant ses yeux, en caractère bien visible sur la paroi, l'arrêt de sa condamnation. Mane tessel phares. Mane, Dieu a compté votre règne, c'est-à-dire, vous n'avez que plus que très peu de temps à vivre. Tessel, vous avez été pesé dans la balance de la justice éternelle, et votre poids s'est révélé inférieur au poids exigé. Phares, votre royaume a été divisé. Pour le pécheur, il ne restera rien, rien, des joies qu'il a éprouvées en cette vie. Au contraire, elles seront plus une source de condamnation qu'autre chose. Pour une âme en état de grâce, il peut arriver cependant que le cœur ne soit pas toujours à la joie et que la tristesse ait trop de part. Il peut arriver que nous soyons pris par des motifs humains qui nous empêchent de goûter cette véritable joie de Dieu à laquelle nous avons droit par la grâce qui habite dans notre âme. Aussi, il n'est pas inutile ici de donner quelques moyens qui nous aideront à goûter cette joie de Dieu. Premier moyen, et le plus nécessaire, être toujours dans l'amitié de Dieu et pratiquer constamment la vertu. Aussi, plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus on est heureux. Et la joie est avant tout le fruit d'une conscience en paix. Aussi, combien goûte-t-on la paix et la joie quand on se confesse bien, quand on prend le soin de bien purifier sa conscience, d'éviter le péché, de combattre le péché. Deuxième moyen, occuper son esprit de ce qui peut réjouir le cœur. Il ne s'agit pas, bien sûr, de penser à ce qui flatte la sensualité, la vanité ou encore l'ambition. Nos réflexions doivent se tourner vers ce qui fait notre véritable grandeur et notre vrai bonheur, et ensuite une joie sensible et solide et intime en sera le fruit. Il ne s'agit pas non plus de fermer les yeux à toutes les causes des tristesses humaines, mais il s'agit de tourner principalement ses regards vers la source de la vraie joie qui est Dieu. Et la principale réflexion qui doit animer notre esprit et alimenter notre joie est bien sûr l'amour que Dieu nous porte. Nous devrions être saisis par cette pensée. Nous sommes, nous, toujours présents à la pensée de Dieu. C'est si vrai que si Dieu ne pensait pas à nous, nous cesserions d'exister. Et si nous avons le bonheur d'être en état de grâce, d'être dans l'amitié de Dieu, Dieu porte sans cesse sur nous un regard d'amour. Nous sommes dans le cœur de Dieu. Quelle belle pensée, être toujours le sujet de l'amour de Dieu. Dieu m'aime en ce moment, Dieu pense à moi, Dieu veille sur moi, continuellement. Quelle belle pensée. Tournons nos regards aussi vers notre Sauveur, vers sa bienheureuse passion. Quel grand motif de joie que de savoir que notre Seigneur a payé pour nous le prix, du prix de son sang, notre délivrance du péché, de la mort et du démon, et aussi notre délivrance de la tristesse. Premier moyen, l'état de grâce, une conscience pure. Deuxième moyen, penser à l'amour de Dieu. Troisième moyen, la ferveur spirituelle. Une âme tiède et lâche ne possédera jamais cette joie qui n'est réservée qu'à ceux qui ont dompté leur passion et surmonté la mollesse. La parfaite charité chasse la crainte servile qui nous plonge dans la tristesse et dans l'abattement. Dieu aime ceux qui l'aiment et il donne à ceux qui se donnent à lui. Dieu donne ses dons les plus précieux à ses âmes, parmi lesquels la joie tient un des premiers rangs, puisque sans elle, tout languit en nous. C'est la joie qui met en œuvre nos talents, qui fait fleurir les vertus, qui nous fait faire des progrès dans la voie de la sainteté. La joie aussi qui déconcerte nos ennemis, comme notre tristesse et notre abattement font leur triomphe. La tiédeur est aussi souvent causée par des attaches à la créature. Ce n'est qu'en coupant ces attaches que nous trouverons la ferveur spirituelle et par conséquent la joie. La joie ne peut être en effet le partage des esclaves, et l'on est esclave tant qu'on est attaché de manière désordonnée au bien de cette terre. Et rien ne trouble tant et ne fait perdre la joie que le désir d'avoir ce qu'on n'a pas. Un cœur plein de désirs terrestres est toujours dévoré par la tristesse. Personne n'est au contraire si content que celui qui sait se satisfaire de peu, et qui ne cherche que Dieu. Concluons. Et pour cela, prions tous les saints. Ils ne l'ont été que parce qu'ils ont joui de la joie de Dieu. Qu'ils nous aident donc à tourner nos yeux vers les réalités spirituelles, vers cette pensée de l'amour de Dieu. Qu'ils nous obtiennent également la force de mener le combat spirituel contre nos défauts, contre nos attaches. Et ainsi nous garderons la ferveur du cœur. Et puis tournons surtout nos regards vers l'Immaculée Vierge Marie, elle qui est appelée Causa Nostra Laetitiae, la cause de notre joie. Qu'elle nous console dans nos épreuves et nous donne cette joie qui rend si facile le service de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.